dans l'actualité des idées aujourd'hui, la Silicon Valley est-elle le nouveau centre du pouvoir mondial? Invitée jusqu'à 13h30, la sociologue américaine Shoshana Zuboff, professeure émérite à la Harvard Business School, auteur de L'âge du capitalisme de surveillance, sorti la semaine dernière chez Zulma Éditions. Dans cet essai remarqué et remarquable, labellisé Must Read, à lire absolument par Naomi Klein, qui y voit un manifeste d'autodéfense numérique, la nouvelle porte-voix du mouvement critique envers la technologie met en garde contre la récupération et l'utilisation de nos données personnelles et le pouvoir qu'elle procure, pouvoir de prédiction, d'orientation et donc de contrôle de nos comportements à l'avenir. Et c'est historique, politique, économique et technologique. Le livre interroge surtout notre capacité à habiter le futur, comme le dit son auteur. Bonjour à vous, Shoshana Zuboff.
Yes, hello.
Et bonjour à votre voix française,
bonjour.
Pascal Fougère. Bonjour.
Bonjour.
L'âge du capitalisme de surveillance, votre livre, Shoshana Zuboff, prend à la fois la forme d'une saga et d'un carnet de voyage vers un nouveau continent, un nouveau monde. Il raconte l'histoire d'une ruée vers l'or numérique. Pourquoi avoir entrepris d'écrire cette histoire comme celle d'une conquête ?
Well, this is a subject that I've been elaborating on for many years.
Alors, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Ça a commencé en 1978, en fait. Hein, c'est là que j'ai commencé à écrire. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Et ce livre a été au centre de ma vie maintenant depuis de nombreuses années. Hein. Plus de 10 ans ont été consacrés entre l'écriture et les périodes de recherche. Mais je crois que c'est ce que ça demande de produire quelque chose qui soit un peu substantiel et qui dure. Hein. C'était ce que j'espérais en écrivant ce livre. Et voilà, j'espère que ça va être une contribution importante.
Voilà, vous parlez de nouvelle Eldorado. Ce livre est conçu comme une première cartographie d'une terra incognita. C'est une première incursion qui, je l'espère, écrivez-vous, Shoshana Zuboff, ouvrira la voie à d'autres explorateur. Alors si vous êtes vous l'exploratrice de ce nouveau monde, le pionnier à vous lire, c'est Google. Quels sont les objectifs suivis et affichés par Google?
The aims of Google right at the beginning.
Les objectifs de Google au début du XXIe siècle, c'était d'abord d'éviter la faillite. Hein. Donc ce capitalisme de surveillance a été inventé par Google entre 2000 et 2001 et ça a été élaboré après, de manière plus précise, les années suivantes. Mais ça s'est passé vraiment à un moment de grande crise, en fait, dans la Silicon Valley. Hein. C'était donc la crise du numérique. Et c'était un moment, en fait, où des gens très intelligents qui avaient des entreprises du numérique avaient plein d'idées, mais ils ne gagnaient pas d'argent à l'époque. Et Google était une de ces entreprises. Et l'un des fondateurs, en fait, a eu l'idée en fait que la publicité allait être très dommageable à la question des moteurs de recherche et que ça défigurait l'idée en fait. Mais donc, ces jeunes hommes, c'était les esprits les plus éclairés de la Silicon Valley. C'était des gens qui vraiment galéraient beaucoup, hein, c'est-à-dire que les investisseurs menaçaient de les lâcher. Et donc, du coup, ils ont déclaré un état d'urgence et ils ont réalisé donc qu'il allait falloir trouver une manière, non pas d'offrir aux gens un moteur de recherche absolument formidable, mais de gagner un peu de l'argent. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que alors que les gens en fait allaient sur leur page pour faire des recherches, ils laissaient une trace de leur comportement en fait, des traces numériques, un chemin numérique en quelque sorte. Et à l'intérieur en fait de ces chemins numériques, ils ont découvert qu'il y avait donc là des signaux prédictifs qui étaient très utiles pour prévoir les comportements rapidement des utilisateurs. Ce qu'ils ont rapidement compris, c'est que c'était l'ouverture d'un horizon totalement nouveau et que, d'une certaine manière, ces données qui n'étaient pas utilisées, et ce que moi j'appelle en fait le surplus comportemental, ils ont réalisé qu'ils pouvaient prendre ces données et les orienter vers une autre direction. Pas celle des utilisateurs, mais plutôt, en fait, envers leurs clients privés, les gens qui faisaient de la publicité sur Internet. Et donc, ils ont dit à ces clients, nous avons trouvé une nouvelle boîte noire et on a un nouveau produit pour vous et c'est la donnée prédictive. Et ça, ça va vous permettre de dire où vous pourrez mettre vos publicités. Et c'est nous qui allons vous dire quels sont les mots-clés. Et on ne va pas vous laisser rentrer dans cette boîte noire. On ne va pas vous dire comment on arrive à ça. Mais on va vous dire où mettre la publicité. Et voilà. Le reste, c'est de l'histoire.
Fantastique invention. Donc, du début des années 2000, où la bulle Internet éclate, où ces start-up auxquelles beaucoup avaient cru font faillite, ils trouvent, Google notamment, le moyen de monétiser leurs activités en inventant cette boîte noire. Voilà, et vous l'écrivez, nous sommes devenus leur matière première, ou plutôt l'expérience humaine est devenue leur matière première. C'est ce fameux surplus comportemental que vous définissez dans cet ouvrage, L'âge du capitalisme de surveillance, Shoshana Zuboff. Et nous en sommes qu'au début. Et c'est le président exécutif du conseil d'administration de Google qui le dit, Eric Schmidt, on l'écoute.
We're at the beginning. Je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes au début, au balbutiement de l'ère Internet. Beaucoup de développements sont à venir. Voici quelques exemples. 2 milliards de personnes ne sont pas encore sur Internet. Ils vont se connecter dans les 3 à 5 ans, grâce notamment aux téléphones portables. En matière d'informatique traditionnelle, on le fera sur le cloud, avec une nouvelle génération plus sécurisée. Une nouvelle génération d'applications et de sociétés verront le jour pour produire des services liés au lieu où vous êtes, ce que vous voulez acheter, où vous voulez acheter, comment vous voulez acheter. Un nouveau type de commerce électronique, de nouvelles occasions pour la création d'entreprises. Nous sommes au balbutiement de ce que nous pouvons faire avec ces plateformes. Un des faits sous-jacents, c'est la grande expansion des données. Il y a tellement de données que personne, quelle que soit votre intelligence et votre force de travail, ne pourra être au niveau de ces données. C'est un problème en matière de recherche et la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette expansion, il y a davantage de besoins de production de services en matière de recherche. Nous allons vous donner des solutions beaucoup plus efficaces avec votre permission. Si vous signez et si vous nous dites qui vous êtes exactement, nous pourrons certainement produire plus de résultats, plus focalisés.
Voilà, on est alors en 2011. Eric Schmidt parle des promesses, des nouveaux outils en place et de ce qu'il pense pouvoir encore nous offrir. À l'entendre, moi je me dis, Shoshana Zuboff, le client est roi. Qu'y a-t-il de mal à ça?
Well, I'm so glad that you use this piece of history.
Très heureuse que vous ayez utilisé cette pièce d'histoire pour vos auditeurs. Ce que les gens ont compris dès le début, quand je parle de cette situation, de ces données qui sont oubliées un peu sur les serveurs et qui distendent sur les comportements des gens. Donc Google a compris dès le début que dès qu'il creusait en fait dans ses traces numériques, au début il parlait en fait de fumée. Il voulait que les gens pensent que c'était en fait des résidus, quelque chose qui n'avait aucune valeur. Mais ils ont compris dès le début que les gens savaient en fait ce que Google faisait. C'est quelque chose que j'ai accidentellement découvert. J'ai laissé en fait des données en fait à mon sujet que je n'ai pas choisi de révéler. Et si vous prenez ces données et que vous les révélez et que si vous les utilisez pour me cibler, qui est un autre mot pour manipuler, si vous utilisez ces données pour me cibler sans que je le sache et sans mon consentement, d'une certaine manière, c'est absolument illégal et c'est le fondement sur lequel s'appuie l'édifice du capitalisme de surveillance. Donc, dès le début, ils ont compris que ces systèmes avaient besoin d'être cachés, ils avaient besoin d'être secrets, ils avaient besoin d'être indéchiffrables. Et c'est pour ça que j'ai parlé de capitalisme de surveillance, pas pour être mélodramatique, mais simplement pour montrer que si ces systèmes n'avaient pas été cachés, Google n'aurait jamais pu réussir. Alors, les manières dont ils ont caché ce qu'ils faisaient, c'est à deux niveaux. D'abord, les systèmes techniques, la technologie était cachée, c'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est tellement difficile pour nous d'avoir accès à ce qu'ils font vraiment. Et le deuxième niveau, c'est qu'ils ont appris qu'ils pouvaient se cacher derrière une stratégie rhétorique. Hein, ce qu'on appelle aux États-Unis, en fait, l'allumage de réverbères. Je ne sais pas si vous parlez de ça en français, mais l'idée, en fait, c'est qu'ils ont façonner ces discours qui ont fait paraître positif tout ce qui était négatif. Tout semblait être un cadeau, alors qu'en fait, c'était une menace. Et c'est ce que vous venez d'entendre dans l'extrait que vous avez passé. Et donc, ce qui se passe vraiment avec le capitalisme de surveillance, c'est que les connexions, en fait, sont devenues des armes. Plus nous nous connectons, plus nous donnons d'informations personnelles. Et il ne s'agit pas de ce que nous savons que nous donnons, que nous fournissons, mais c'est que tant qu'on se promène à travers ces interfaces de leur chaîne de données, ils ont appris à prendre beaucoup plus de nous que ce que nous savons. Et c'est pour ça que je dis qu'on a le sentiment qu'on leur donne quelque chose, mais en fait, ils ont développé ces systèmes qui en prennent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Nous avons appris avec en 2018 à partir d'un document Facebook que quand on regarde en fait l'usine Facebook, c'est de l'intelligence artificielle. Vous pouvez y penser comme réellement en fait une industrie, comme une fabrique, hein, c'est-à-dire que toutes les données vont dans des chaînes qui font circuler en fait les données vers des espèces d'usines d'intelligence artificielle, et ensuite il y a des produits en fait informatiques qui sont vendus aux clients en fait.
Et le client, ce que vous dites, Shoshana Zuboff, c'est que le client, ce n'est pas nous. Le client, ce sont les autres, ceux que servent ces industries, ce nouveau capitalisme de surveillance. C'est déjà totalement flippant, hein, ce que vous nous avez expliqué jusqu'ici. On va continuer à entrer avec vous dans cette nouvelle machine en marche, parce que ces données, ces informations personnelles, les traces aussi que l'on laisse à chaque fois qu'on circule sur Internet, mais pas seulement, l'ogre de l'intelligence artificielle nous les soustrait, les avale, les digère, les compile et les recrache sous la forme de prédictions. Voilà ce que vous racontez dans ce livre « L'âge du capitalisme de surveillance » Shoshana Zuboff. Ce capitalisme de surveillance, vous insistez dans le livre sur le fait que ça n'est pas un phénomène naturel, ça n'est pas un phénomène inné. Il n'est ni un résultat inhérent à la technologie numérique, écrivez-vous, ni une expression nécessaire du capitalisme de l'information. Il s'agit bien d'une invention, d'une construction, qui sont aujourd'hui, Shoshana Zuboff, les cerveaux de ce capitalisme de surveillance, les marionnettistes, tels que vous les appelez, ceux qui tirent les fils.
That's such a good summary of a very important theme.
C'est un si bon résumé d'un sujet très important. Je crois que c'est très important d'ajouter que ceci a commencé donc sur Internet, au moment où on y fait des recherches, où on y est sur des réseaux sociaux, en fait, en ligne. Hein. mais il est important de comprendre que ces processus sont maintenant partout à l'œuvre et ces chaînes, en fait, qui prennent tout ce surplus corporamental sont actuellement en train de cibler nos corps, mais aussi nos maisons, mais nos magasins, mais nos villes et à peu près tout ce qui peut exister entre. Et c'est en train, effectivement, de gagner notre économie et de gagner notre vie quotidienne. Actuellement, 88% de la capitalisation de Google vient des publicités sur Internet et pour Facebook, c'est 98%. Mais l'ensemble du secteur des technologies, est rentré dans ce système. Hein. Amazon et Microsoft sont aussi des acteurs clés. Et je dirais actuellement que c'est impossible, en fait, de télécharger n'importe quelle application sur votre téléphone qui ne vous enlève pas, en fait, ou ne récupère pas des informations sur vous, ce surplus comportemental sur comment vous vivez et votre écosystème. On voit maintenant que on parle d'éducation, on parle de santé, on parle de commerce, on parle de finance, on parle d'assurance. Tous ces secteurs d'activité sont actuellement en train d'aller vers ce que j'appelle les dividendes de la surveillance de manière à s'inscrire dans cette nouvelle logique. Et donc, on a vraiment, en fait, quelque chose qui s'étend et qui touche toute la société. Et ça, ça n'a rien à voir avec la technologie numérique. Ils ont essayé de nous persuader que c'était la conséquence inévitable du numérique, alors qu'en fait, c'est tout simplement une logique économique qui est née dans une crise qui, d'une certaine manière, a complètement kidnappé, en fait, le numérique. Hein, et c'est complètement antidémocratique.
Madame Zuboff, ça leur rapporte beaucoup.
Alors, on va revenir tout au début pour illustrer ça. On a parlé, en fait, de Google qui a inventé le capitalisme de surveillance en 2000-2001. Quand ils ont fait ça, tout était secret. Il était impossible de savoir ce qui se passait à ce moment-là dans l'entreprise. La seule chose qu'on savait, c'était que les investisseurs n'ont pas retiré leur argent. L'entreprise n'a pas fait faillite. Elle a continué à fonctionner, mais on ne savait pas comment. Ce n'est qu'en 2004, en fait, lorsque Google est devenu public, d'une certaine manière, quand ils ont donné des documents pour répondre à un appel d'offres. Et là, on a compris qu'entre 2001 et 2004, le revenu avait augmenté de 3590%, hein, leur chiffre d'affaires. Donc c'est une augmentation absolument phénoménale quand on pense que en 2000 ils n'avaient absolument pas de revenus, hein. Et donc et ça c'est des dividendes. Donc c'est des dividendes de surveillance et ces dividendes ont changé les standards, les normes pour toutes les entreprises du secteur technologique et ça s'étend maintenant à travers toute l'économie parce que c'est ce genre de dividendes qui attire les investisseurs et c'est ce type de dividendes qui ont permis à Google en seulement deux décennies de partir de rien pour être une entreprise qui est milliardaire aujourd'hui. Et donc, si cette croissance d'entreprise est possible et à ce rythme-là, C'est parce que ces compagnies représentent des concentrations de connaissances jamais réunies auparavant et donc ils ont aussi une possibilité de contrôle qui viennent de ces connaissances. Et je dirais que les inégalités que ça crée est effectivement représentée par ce que ces compagnies savent de nous et ce qu'on sait d'eux, ce que nous pouvons faire et ce qu'elles peuvent nous faire. Donc, effectivement, la seule chose qui pourra arrêter, c'est la loi, c'est la régulation.
On va essayer de parler quand même un peu des solutions parce que le constat, là, est assez plombant. On va voir s'il y a des moyens de s'en sortir. On l'entend, en tout cas, c'est un métier d'avenir, visiblement. Shoshana Zuba, vous êtes avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
J'aimerais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que le corps législatif devrait faire pour mieux protéger les données personnelles des gens ?
Sénateur, je suis heureuse que vous ayez posé la question. Réfléchissons. Au fond, ce qui fait la valeur de Google et Facebook, c'est le fait qu'ils détiennent et qu'ils utilisent les données de milliards de personnes à travers le monde. Selon moi, on pourra changer les choses que si les données privées deviennent la propriété des utilisateurs.
Merci bien, merci beaucoup.
Extrait du documentaire The Great Hack, diffusé sur Netflix, réalisé par Jehan Noujaim et Karim Hammer, qui revient et analyse le scandale Cambridge Analytica. À l'instant, c'était le témoignage contre son employeur d'une ancienne cadre de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, auditionnée par le Parlement britannique. Elle est donc dans une sorte de repentance par rapport à ce qui a été fait et nommée à son tour en garde. Les régulateurs européens et américains, Shoshana Zuboff, ont-ils aujourd'hui un rôle à jouer ou est-ce qu'ils auront toujours un train de retard ? Parce qu'à vous entendre, c'est réellement un nouveau pouvoir qui s'est installé aujourd'hui dans la Silicon Valley. Comment se fait-il que les États laissent faire, se laissent concurrencer par ce nouveau pouvoir ?
Yes, well, these are the critical questions that we face right now.
Ça, c'est effectivement les questions brûlantes auxquelles on fait face actuellement. Le capitalisme de surveillance n'a que 20 ans. La démocratie est bien plus ancienne. Et c'est vrai que les entreprises peuvent bouger rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas de la démocratie. Mais lorsque la démocratie sait, elle est forte et elle peut se défendre. Et je dirais que le message, en fait, que je veux donner avec force, c'est que nous avons toutes les raisons d'être optimistes et d'avoir confiance dans la possibilité de législation de la démocratie. Mais ça ne se fera pas tout seul. La démocratie n'agira pas seule. La seule chose qui fait peur au capitalisme de surveillance, c'est la loi. La seule chose dont ils ont peur, c'est les législateurs qui n'ont pas peur d'eux. Et ils ont également peur des citoyens qui refusent d'accepter cette logique économique qui, par sa nature même et par la nature même de ses opérations, a pour but de saper l'autonomie individuelle, la souveraineté individuelle et qui, évidemment, sape la démocratie en créant des différences incroyables entre les pouvoirs et les connaissances. Et donc, ils veulent en fait une gouvernance de la concurrence qui passe pour une gouvernance de la démocratie. D'une certaine manière, les démocraties ont un peu dormi, mais elles sont en train actuellement de se réveiller. C'est vrai, particulièrement pour la France, où on a des leaders qui sont très informés et qui veulent être à l'avant-garde de ces sujets. On voit ça aussi en Grande-Bretagne, on voit ça à la Commission européenne et dans toute l'Europe. Et finalement, on est en train d'assister au réveil de la démocratie aux États-Unis. Et si on a suffisamment de chance pour faire le choix de la démocratie dans une semaine maintenant, je pense qu'on devrait arriver à mettre en œuvre des actions assez fortes. les lois que l'on a déjà sur les lois antitrust que l'on a et contre le monopole, elles peuvent être applicables, mais ce n'est qu'un début, parce que ce qu'il faut vraiment faire, c'est comprendre les mécanismes spécifiques à l'œuvre avec le capitalisme de surveillance. Il faut qu'on crée de nouvelles lois, il faut qu'on crée de nouvelles institutions qui vont mettre certains de ces mécanismes hors la loi. Ça peut paraître difficile, mais pas tant que ça, finalement. Si on pense au XXe siècle et à la fin du XIXe, aussi, on est rentré dans le capitalisme industriel sans droit des travailleurs, sans droit des consommateurs, sans les institutions, sans les cadres légaux qui allaient protéger les travailleurs et les consommateurs. Et évidemment, les institutions, les cadres légaux, les lois, tout ça, ça a été inventé à travers le jeu des demandes citoyennes et ce qu'ont pu faire les législateurs. Ça a été inventé dans les premières années, les premières décennies du XXe siècle et un peu plus tard aux États-Unis. Donc, c'est un acte d'invention et il y a un appel pour qu'on y participe en fait. Et à chaque fois dans notre histoire, quand il y a des transformations structurelles qui se produisent, alors on a eu l'industrialisation, l'ère du numérique, c'est maintenant, c'est la marque de notre présent, de notre ère. Et on voit bien en fait que les démocraties libérales, celles des États-Unis et la vôtre, ont jusqu'à maintenant échoué dans la construction d'une vision et d'une réflexion sur ce que sera l'art numérique et comment il peut faire avancer la démocratie et nos principes et nos valeurs. Et voilà le travail qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire d'arriver à essayer d'inventer des choses, mais qui ne n'aillent pas contre l'autonomie du citoyen. Et c'est des choses qu'on a faites dans le passé, et c'est quelque chose qu'on peut faire à nouveau.
Voilà, et on le voyait avec le scandale Cambridge Analytica, les dangers pour la démocratie, c'est aussi ce que ce scandale a montré. Vous parlez, Shoshana Zuboff, du pouvoir instrumentarien, ce nouveau type de pouvoir que le capitalisme de surveillance a fait naître. Une dernière question avant de se quitter. Un peu partout dans le monde, face à la pandémie, des applications de contact tracing, comme on les appelle, comme en France, Stop Covid sont nés pour alerter les personnes ayant côtoyé une personne positive au virus et aider les systèmes de santé. Aujourd'hui, on voit que des acteurs privés comme Google et Apple essayent de se positionner sur ce marché avec leurs propres solutions. Est-ce que vous conseillez, vous, aux citoyens de télécharger ou de ne pas télécharger ce type d'application ? Est-ce que vous êtes inquiète pour la confidentialité maintenant de nos données de santé ?
Well, you've raised such an important question and
la vie privée, le droit à la vie privée dépend de la force de notre démocratie. Quand on parle en fait de ces données de santé, tout le monde comprend que cette manière de retracer les contacts est effectivement fondamentale, que c'est quelque chose qui doit dépendre des autorités de santé publique. On comprend également que c'est une activité qui demande que ce soit les gens qui fassent que ces applications marchent. On a besoin d'humains qui vont pouvoir mettre ça en œuvre et ces humains doivent avoir, outre les qualités en épidémiologie, mais également des qualités en psychologie et en sociologie. La technologie, c'est pas la réponse pour retracer les contacts. Mais cependant, on est en 2020, nos responsables de santé publique doivent bien sûr utiliser des outils qui correspondent à notre temps. On doit utiliser effectivement des humains pour retracer l'épidémie, mais rien n'empêche évidemment qu'ils puissent être soutenus par des technologies Donc, je dirais que pour que ces nouveaux outils puissent être améliorés, déployés, mais sous l'autorité, sous les autorités de santé, et ce sur quoi on doit se concentrer, c'est comment, même avec une base d'urgence relative, on doit se concentrer sur comment on invente des lois, penser que les informations puissent être supprimées et qu'elles ne soient utilisées que dans cette situation de crise. Et en tant que citoyens, nous avons une influence sur nos démocraties, nous avons une influence sur nos hommes politiques, sur nos élus, nous avons la possibilité d'influencer nos lois. Et le fait d'utiliser une application qui soit Google ou Apple ou à la place d'une application développée dans nos démocraties est quelque chose qui est complètement léger, en fait. Hein. C'est quelque chose qui ne devrait pas être, parce que, à mon avis, ce discours, c'était un discours, en fait, de relations publiques, parce que après avoir analysé de manière très fine en fait toutes ces applications, chacune a des avantages et des inconvénients, chacune a des possibilités d'échec, des points faibles. La question, c'est à qui faisons-nous confiance pour nos données ? À qui, effectivement, confions-nous ces données ? Et dire, voilà, on est dans une démocratie, on a droit à des droits. Et Apple ou Google ne nous protègent pas du tout. Ce sont des empires de surveillance qui ne doivent rendre de compte à personne. Et il y a seulement, en fait, un pouvoir unilatéral qui ne doit rendre de compte à personne. Et d'une certaine manière, leur construction rhétorique est mise en avant pour que nous soyons en état de division avec nos gouvernements et de manière à ce que on mette nos propres démocraties en question. Et je crois qu'effectivement, hein, c'est un drame qui s'est joué en France avec l'application Stop Covid. Je pense que c'est quelque chose néanmoins qui nous a apporté beaucoup d'enseignements et je crois qu'on peut s'en emparer pour aller de l'avant et ça renforcera nos démocraties. Et la démocratie française est sans doute la démocratie la plus forte pour faire ceci. I think that's it.
Voilà, c'est un appel à nous, le peuple, que vous lancez aujourd'hui, Shoshana Zuboff, dans ce livre « L'âge du capitalisme de surveillance ». Contre ce capitalisme perçu comme un coup d'État d'en haut et non comme un renversement de l'État, mais plutôt comme un renversement de la souveraineté du peuple, écrivez-vous. Un appel à la vigilance et à la compréhension plutôt qu'à la peur alimentée par le sentiment d'impuissance. Votre livre est un appel à la résistance. Il s'intitule donc « L'âge du capitalisme de surveillance ». Il est signé Shoshana Zuboff et il vient de paraître aux éditions Zulma. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci.
Thank you so much.
Et merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des idées, à Henriette Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Madeleine Martineux et Anouk Delfino à la réalisation aujourd'hui. C'était Thomas Beau avec Déborah Dagobert. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Je vous dis à demain.